Aujourd'hui, nous sommes dans Genèse chapitre 4 et vraiment le message est un petit peu touche à tout. Donc on ne va pas passer trop de temps sur un sujet ou un autre, mais on va voir plusieurs thèmes. Donc est-ce qu'il y a quelqu'un, peut-être Alan ou Sidney, qui voudrait lire Genèse chapitre 4 pour devenir devant pour le lire? Quelqu'un veut le faire?
Tout le chapitre.
Tout le chapitre. D'accord. Adam, ayant connu Ève, sa femme, elle conçut et enfanta Caïn, et elle dit: j'ai fait l'acquisition d'un homme avec le secours de l'Éternel. Elle mit encore au monde Abel, son frère. Abel était berger et Caïn, laboureur. Au bout de quelque temps, Caïn présenta une offrande à l'Éternel, des fruits de la terre. Abel, de son côté, offrit des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel eut égard à Abel et à son offrande, mais il n'eut point égard à Caïn ni à son offrande. Caïn en fut très irrité, et son visage fut abattu. L'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Si tu avais agi comme il fallait, ton offrande n'aurait-elle pas été agréée? Si tu n'as pas bien agi, c'est que le péché est déjà à la porte de ton cœur, qu'il tente à dominer. Mais toi, sache t'en rendre vainqueur. Caïn parla à son frère Abel, et comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur Abel, son frère, et il le tua. Alors l'Éternel dit à Caïn: où est Abel, ton frère? Caïn répondit: je ne sais pas, suis-je le gardien de mon frère, moi? L'Éternel dit: qu'as-tu fait? Le sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras la terre, elle ne te donnera plus ses fruits. Tu seras errant et fugitif sur la terre. Caïn répondit à l'Éternel: mon châtiment est trop grand pour que je puisse le supporter. Tu me chasses aujourd'hui de ce pays, et je dois me cacher loin de ta face. Je serai errant et fugitif sur la terre, et le premier qui me trouvera me tuera. L'Éternel lui répondit: non, si quelqu'un tue Caïn, Caïn sera vengé 7 fois. L'Éternel mit sur Caïn un signe, afin que quiconque le rencontrerait ne le tuât point. Alors Caïn se retira de devant l'Éternel, et il habita dans le pays de Nod, à l'orient de l'Éden. Caïn connut sa femme. Elle conçut et enfanta Enoch. Il construisait alors une ville qu'il appela Enoch, du nom de son fils. Puis Irad naquit à Enoch, et Irad engendra Mehuyael. Mehuyael engendra Methusaël, et Methusaël engendra Lémec. Lémec prit 2 femmes. Le nom de l'une était Ada, le nom de l'autre Tsila. Ada enfanta Jabal. Il fut le père de ceux qui habitent sous des tentes et au milieu des troupeaux. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila, elle aussi, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait toutes sortes d'instruments tranchants, d'airain et de fer. La sœur de Tubal-Caïn était Naama. Lémec dit à ses femmes: Ada et Tsila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, prêtez l'oreille à ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure, et un jeune homme pour ma meurtrissure, car Caïn sera vengé 7 fois, et Lémec 77 fois. Adam connut encore sa femme. Elle enfanta un fils, et lui donna le nom de Seth. Car, dit-elle, Dieu m'a donné un autre fils à la place d'Abel, que Caïn a tué. Un fils naquit aussi à Seth, et il l'appela Enos. C'est alors que l'on commença d'invoquer le nom de l'Éternel.
Merci. Donc, premièrement, on va parler du mariage. Et on va retourner dans Genèse chapitre 2, au verset 22 au 25. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qu'il avait pris de l'homme et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois, celle qui est os de mes os et chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et ils deviendront une seule chair. L'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point honte. Ce texte-là est répété plusieurs fois dans le Nouveau Testament. Et même Jésus, donc, quand il parlait de mariage, il a fait référence à ce texte. Donc j'aimerais voir dans Matthieu chapitre 19. On lui pose la question du divorce dans Matthieu 19. On va lire les versets 3 à 8. Les pharisiens l'abordèrent et dirent pour l'éprouver, « Es-tu permis à un homme de repudier sa femme pour un motif quelconque ?» Il répondit, donc Jésus répondit, « N'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme ?» Et il dit, « C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme, donc, ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pourquoi, dit-il, pourquoi donc lui dire-t-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier ? Il leur répondit, « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en impose une autre, commet un adultère. » Donc on voit dans ce texte-là, premièrement, la volonté de Dieu depuis le début, c'est le mariage. C'est le mariage monogame. Les mecs, on a lu tout à l'heure, a pris deux femmes. Pourquoi on a mentionné les mecs? Hein, parce que dans la Genèse, c'est l'origine des choses. Donc, on parle de les mecs pour deux raisons. Premièrement, c'est le premier homme qui a quitté la volonté de Dieu et a pris deux femmes. Et puis, c'est le premier homme qui s'est vengé en tuant une autre personne. C'est pas la première personne qui a tué quelqu'un. Hein. Caïn s'était fâché à son frère et l'a tué. Lémec était blessé par un autre et il s'est vengé. Okay? Donc, on voit déjà dans le début de la Genèse qu'on commence à quitter la volonté de Dieu dans ses plans domestiques. On sait que le divorce arrive. Ce n'est pas le plan de Dieu. Mais quand c'est fait, on sait vivre avec. D'accord? Donc, on n'est pas là pour condamner les gens. Plusieurs fois, ça vient dans les prédications, les questions de mariage et les questions de divers péchés, parmi lesquels se trouve le divorce. Hein? Mais on n'est pas là pour condamner. On est là pour encadrer. Dieu pardonne et on vit dans l'avenir. Okay? Donc, ce n'est pas pour harceler quelqu'un qui aurait pu avoir passé par le divorce, qu'on parle de ces choses, mais c'est pour dire que voilà ce qui est la volonté de Dieu, c'est qu'un homme et une femme vivent ensemble et ils vivent ensemble toute leur vie. Alors Jésus a dit, la raison que le divorce arrive, c'est pourquoi? à cause de la dureté de cœur. C'est à cause du péché. C'est à cause de l'égoïsme de l'un et de l'autre. Quand on aime, quand on s'aime, on fait le bien. On fait le bien à l'autre. On remplit les trous, on exauce les besoins de l'autre. Donc on peut voir dans Éphésiens chapitre 5, on focalise là surtout sur l'homme. Éphésiens chapitre 5, quand on parle de cette question du mariage, on va lire le verset 25, 28, 29. Éphésiens chapitre 5, verset 25. Marie, que chacun aime sa femme. Donc j'insiste, le mot aimer, c'est faire le bien. Quand on aime son ennemi, bien sûr sa femme n'est pas son ennemi, mais quand on aime son ennemi, on donne à son ennemi ce qui lui manque. Il lui manque de l'eau, on donne à boire. Il lui manque la nourriture, on lui donne à manger. Donc on voit l'expression de l'amour, c'est remplir le besoin de l'autre. Donc, je répète, Marie, que chacun aime sa femme comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. Donc, on aime, le mari aime, fait le bien envers sa femme au point même de se livrer pour elle. C'est un amour qui n'est pas égoïste, mais qui a tout en bénéfice de l'autre. Verset 28, « C'est ainsi que le mari doit aimer sa femme comme son propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. » On doit aimer sa femme, on doit aimer sa femme comme on s'aime soi-même. Alors, il y en a des gens aujourd'hui de plus qui sont de plus en plus pervertis, qui se font de mal. Mais à comprendre dans leur esprit tordu, ils se font de mal dans l'esprit de vouloir se faire du bien. C'est bizarre, c'est tordu, mais c'est toujours dans ce cas-là, dans ce domaine-là. Aussi, verset 29, « Car jamais personne n'a haï sa propre chair, mais il a nourri et en prend soin, comme Christ le fait pour l'Église. » Ok, donc c'est dans cet esprit que le mari aime sa femme, il prend soin de sa femme, il ne la batte pas, ça c'est pas prendre soin de sa femme, il nourrit et prend soin. Trop des hommes ont carrément manqué le but de Dieu dans cette idée de mariage. Ils abusent de leur position d'autorité dans la famille. Et nous ne voulons pas nous trouver dans une telle situation. Alors, il y a quand même quelques phrases ici pour la femme. Au verset 23 et au verset 33. Au verset 23... Éphésiens chapitre 5, verset 23, « Car le mari est chef de la femme, comme Christ est chef de l'Église, qui est son corps, et dont il est le sauveur. » Donc, au verset 22, excusez-moi. « Femme, que chacune soit soumise à son mari, comme au Seigneur, car le mari est chef de la femme, comme Christ est chef de l'Église, etc. » Et au verset 33, « Du reste, que chacun de vous aime sa femme comme lui-même, et que la femme respecte son mari. » Donc, dans cette idée de soumission est compris l'idée du respect. Dans la famille, le père est au volant, si c'est un bateau. Si on prend l'image d'un bateau, le père est au volant, le grand roue qui tourne le bateau. Okay? Et la femme assiste et donne des conseils au capitaine. Donc, il faut qu'on prie pour nos familles, dans nos familles et pour nos familles, d'être que le père soit sage, qu'il soit fidèle et qu'il n'y a pas de naufrage. Vous comprenez l'illustration du bateau, il y a un capitaine, il y a l'assistant du capitaine, il y a plein de matelots. Ça, c'est les enfants. Et on ne veut pas que le bateau soit naufragé. Donc, c'est la première chose qu'on voit ici. Dans ce grand texte, c'est la question de mariage. Et je commence avec mariage parce que normalement, homme plus femme égale enfant. Et c'est là que Genèse chapitre 4 commence avec la famille. Okay? Adam connut Ève, sa femme, elle conçut, elle enfanta Caïn. C'est le premier fils. Alors, on se souvient que la Genèse ne donne pas toutes les réponses. La Genèse donne l'origine. Donc, souvent, quand on lit le texte, on dit Caïn, c'était le premier fils. Abel, c'était le second fils. Il n'y avait pas de fille née. Et le troisième fils s'appelle Seth. C'est comme ça qu'on le lit souvent. Mais ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Qu'on en arrive au verset 5, verset 3. Adam, âgé de 130 ans, engendra un fils à sa ressemblance, selon son image, il lui donna le nom de Seth. Donc, Adam avait 130 ans, ou 129 ans, quand Caïn a tué Abel. Et suite à cet assassinat, le premier enfant né s'appelle Seth, et on lui donne le nom de Seth parce qu'il remplace celui qui était tué. Donc, vous pouvez imaginer, si Adam et Ève étaient comme les gens normaux, eh bien, mais en meilleure santé, on va dire, tous les ans, il y avait au moins un enfant. Caïn, c'était le premier. Abel était plus tard. Seth était encore plus tard. Donc, on dit, oh, mais d'où vient la femme de Caïn? Il est parti avec sa femme. Oui, c'était qui? Ben, c'était une de ses sœurs. Quelqu'un qui avait été né dans les mêmes environs de Caïn. Et puis plus tard, donc, il y a Abel qui est né. On parle d'Abel pourquoi? On parle d'Abel parce que c'est lui qui était tué. On ne connaît pas tout le nom de tous les autres. On sait seulement que tous les jours d'Adam... voilà. Les jours d'Adam, après la naissance de Seth, furent de 800 ans. Il engendre des fils et des filles. Des fils et des filles. Plein d'enfants. Toute la terre était remplie. Dans quelques générations, il y avait tellement de monde, on ne se reconnaissait même plus que c'était... Ah, ben, c'est mon cousin éloigné. C'est ma cousine éloignée. OK? Donc ça, c'est simplement pour nous donner l'idée que aussitôt qu'on commence à parler d'hommes et femmes, on commence à parler des relations sexuelles et on commence à parler des enfants. Alors, donc, les deux parents ont des responsabilités. Les parents, il ne le dit pas dans le texte, mais pourquoi Abel a apporté une offrande de l'agneau? Et pourquoi Dieu n'a pas agréé les fruits de Caïn? On va faire une supposition. Adam et Ève ont raconté avant. Avant, c'était bien dans le paradis. Avant qu'on a péché. Et puis on a péché. Et on avait fait des vêtements de feuilles de figuier. Et Dieu, il a donné les vêtements d'animal. Et Dieu a, donc c'est la supposition, Dieu a enseigné à Adam et Ève qu'il fallait faire un sacrifice animal pour couvrir le péché. Et que cette information était transmise aux enfants. Et qu'un des enfants, Abel, obéissait à l'instruction. Et un autre enfant se rebellait. Eh bien, mes fruits sont aussi bien que les agneaux. Et donc, on voit toute la suite de l'histoire. Le point, c'est que les parents sont responsables de communiquer la vérité à leurs enfants. Ce que les parents font, ils communiquent la culture à leurs enfants. Les parents bouddhistes enseignent le bouddhisme. Les parents musulmans enseignent l'islam. Les parents athées communiquent l'athéisme. Je parlais avec une dame l'autre jour et je lui ai offert un calendrier. « Ah, mais non, je suis athée. Je suis athée, né athée. » Mes parents étaient des athées solides et j'ai suivi dans leur chemin. C'est pas qu'elle a fait des réflexions à elle, mais elle a simplement suivi la culture de ses parents. Ça, c'est pas ce que Dieu veut. Dieu ne veut pas qu'on communique le mensonge. Dieu veut qu'on communique la vérité. Et c'est pour cela que les parents sages vont prendre la parole de Dieu et apprendre la parole de Dieu à leurs enfants. Les parents ont la responsabilité de développer dans leurs enfants des bons citoyens et des bons chrétiens. Ce n'est pas pour dire que les enfants vont être convertis. On ne peut pas obliger nos enfants à se convertir. Mais on peut les apprendre ce que ça veut dire d'être un vrai et bon chrétien. Donc, dans nos familles, il faut chercher des conseils dans la parole. Et puis, les parents doivent parler ensemble. Ce n'est pas monsieur dans cet coin-là et madame dans l'autre pièce et on ne se parle pas. Il faut que les parents se mettent d'accord sur les principes par lesquels ils vont élever les enfants. Sinon, les enfants qui sont nés psychologues, eh bien, ils vont jouer un parent contre l'autre parent pour toujours avoir leur volonté. À faire bien attention. Les parents doivent être d'accord sur tous les points. Et même s'ils ne sont pas d'accord, ils doivent se mettre d'accord derrière l'autorité du père pour être d'accord pour la discipline, pour les règles de la maison, etc., pour que les enfants soient bien élevés. Je vais lire dans chapitre 3, à partir du verset 17, au milieu du verset. Genèse chapitre 3, verset 17, au milieu. Le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras de l'herbe des champs. C'est de la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre, etc. Aussi, on va lire verset, chapitre 4, verset 2. Donc, Ève enfanta encore son frère Abel. Abel fut berger, Caïn fut laboureur. Puis, chapitre 4, versets 21 et 22. Le nom de son frère était Jubal. Il fut le père de tous ceux qui jouent de la harpe et du chalumeau. Tsila, de son côté, enfanta Tubal-Caïn, qui forgeait tous les instruments d'airain et de fer. OK? Donc là, on entre dans les questions du travail. Le travail et les difficultés. On parle d'occupation et d'obstacles. Tout est là. Dieu veut qu'on soit occupé. La personne qui n'est pas occupée, il est porté à faire les méchancetés. Il est porté à faire le mal. On a besoin d'une occupation. Alors, quand on parle d'occupation, on ne parle pas d'occupation de braqueur de banque. On parle des occupations honorables. Hein? Les chrétiens doivent toujours choisir les occupations honorables. On va voir quelques principes dans le Nouveau Testament à ce sujet, mais plus large, plus général. Matthieu chapitre 7 et verset 12. Matthieu chapitre 7 et verset 12. Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. C'est une attitude de vie. On fait aux autres de la manière qu'on aimerait bien qu'ils fassent envers nous. Ça ne veut pas dire qu'ils vont faire envers nous ce que nous voulons. Mais nous devons faire envers eux ce que nous aimerions. Dans l'option qu'ils fassent envers nous. C'est un peu semblable dans 1 Corinthiens chapitre 16. 1 Corinthiens chapitre 16 et verset 14. C'est un verset au milieu, c'est un verset qui est tout seul. Que tout ce que vous faites se fasse avec amour. Amour, c'est quoi? Faire le bien. Remplir, exaucer ce qui est une lacune chez l'autre. On a déjà vu, quand on a soif, on offre à boire, par exemple. Que tout ce que vous faites, vous avez choisi un métier, avec ce que vous faites comme métier soit fait avec amour. Et puis on voit aussi dans Colossiens, passera un petit peu plus de temps, dans Colossiens chapitre 3, Colossiens chapitre 3, c'est surtout les versets 17 et 23. On va les lire en premier. Colossiens chapitre 3, verset 17. « Soyez tous mes imitateurs, frères, et portez les regards sur ceux qui marchent selon... » Oh, excusez-moi, je suis dans le mauvais livre. Excusez-moi. Colossiens chapitre 3, verset 17. Excusez-moi. « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Okay? Quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, etc. Et puis verset 23. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pas pour les hommes. Donc, pour rappeler, on a besoin des occupations, du travail. On est dans une économie, n'est-ce pas? Donc, on n'est pas dans une économie ancienne. On est dans une économie aujourd'hui qui focalise surtout sur le travail extérieur. Vous savez, dans le temps, tout le monde travaillait chez soi. Le boulanger travaillait chez lui. Le meunier travaillait chez lui. Tout le monde travaillait chez lui, le fermier, l'agriculteur, etc. Mais maintenant, il faut partir. Obligé, il faut partir de chez soi pour travailler. Si vous restez chez vous, vous ne travaillez pas. Ce n'est pas vrai. Il y en a de plus en plus aujourd'hui qui reviennent, travaillent à la maison, sur Internet, etc. Mais longtemps, on a toute une culture maintenant qui est basée sur l'idée qu'on quitte la maison. Et en plus, on fait de l'argent. On fait de l'argent surtout, c'est peut-être à travers une manufacture de ceci ou de cela, mais ça c'est secondaire. Ce qui compte le plus, c'est qu'on va faire de l'argent. Alors nous, on a toujours eu femme au foyer. Oh, vous ne travaillez pas? On a quelque part dit que quelqu'un qui ne fait pas de l'argent ne travaille pas. Et ce n'est pas une question de travail, c'est une question d'occupation. Et une femme au foyer, elle est très occupée. Et heureusement, le mari n'a pas besoin de le rémunérer. Parce qu'elle travaille peut-être trop d'heures aussi, donc il faudrait peut-être payer les heures supplémentaires, etc. Dans l'optique donc négative sur cette question, on dit que la femme au foyer, je prends ça comme exemple, la femme au foyer n'est pas productive. Mais dans l'optique positive, elle est très productive parce que qu'est-ce qu'elle va développer? Un foyer pour développer des bons citoyens. Et bien sûr, dans un foyer chrétien, des bons chrétiens. C'est très important. Vous imaginez, si vous soustrayez le foyer de la France, qu'est-ce qui vous reste? Beaucoup d'orphelins. C'est très important. Donc on va lire Colossiens chapitre 3 encore, versets 16 à 24. Que la parole de Christ demeure en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse par les psaumes, par les hymnes, par les cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs en vertu de la grâce. Et quoi que vous fassiez en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Femme, que chacune soit soumise à son mari comme il convient dans le Seigneur. Donc, comme il convient dans le Seigneur ne veut pas dire qu'elle doit faire les crimes que le mari dit, faites tel crime ou faites telle malhonnêteté. Ça ne convient pas au Seigneur. Elle est chrétienne et elle fait vivre sa chrétienté avec son mari. Marie, que chacun aime sa femme et ne s'aigrisse pas contre elle. Mais ne fais pas comme je veux. Non, ça n'est pas acceptable. Enfants, obéissez en toutes choses à vos parents, que cela est agréable au Seigneur. Père, n'irritez pas vos enfants de peur qu'ils ne se découragent. Serviteurs, parce que dans le temps, hein, les servants, les serviteurs étaient dans le foyer, ça faisait partie de la maison. Serviteurs, obéissez en toutes choses à vos maîtres selon la chair, non pas seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais avec simplicité de cœur, dans la crainte du Seigneur. Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur et non pas pour les hommes, sachant que vous recevrez du Seigneur l'héritage pour récompense. Servez Christ, le Seigneur. Donc on voit que le travail ou l'occupation est nécessaire. Et comme on va voir, il y a des obstacles, il y a des problèmes, il y a des épines et des ronces. Mais on doit toujours avoir notre objectif, c'est de plaire à Dieu, de nous occuper des occupations honorables. En retournant dans la Genèse, on va voir dans Genèse chapitre 2, le verset 17. Où Dieu a dit à Adam, « Tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. » Aussi, chapitre 3, verset 19. « C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain, jusqu'à ce que tu retourneras dans la terre d'où tu as été prise, car... tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. La mort. Nous sommes tous destinés à la mort. On dit en blaguant, les deux choses qui sont certaines dans la vie, la mort et les impôts. On ne sait pas comment on va naître, riche, pauvre, bonne santé, mauvaise santé, au bout du chemin, chacun va mourir. Et on ne va même pas faire la prédication du chapitre 5 de la Genèse, parce que le message à travers, sauf pour Enoch, bien sûr, c'est la même chose. Un tel, il a engendré des fils et des filles, il a vécu tant d'années, et il est mort. Et il est mort. Et il est mort. Et il est mort. C'est la même chose. Et donc, on voit le... l'exemple donné déjà depuis le début de la Genèse, la vérité qui est proclamée dans l'Épître aux Romains, le salaire du péché, c'est la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. On va mourir par la maladie, on va mourir de la vieillesse, on va mourir dans un accident de voiture ou de la nature ou un avion qui va tomber du ciel, on va mourir par la malveillance, on va mourir d'un meurtre, comme on a l'exemple déjà des deux meurtres dans les premières pages de la Genèse. Regardez au chapitre 4, verset 8. Cependant, Caïn adressa la parole à son frère. Mais comme ils étaient dans le champ, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Il a tué son frère. C'était son frère. Il savait que c'était son frère. Ils avaient la même maman, le même papa. Pourquoi il a tué Abel? Parce qu'il était fâché avec Dieu. Dieu n'a pas respecté son offrande qui n'était pas agréée de toute façon. Il s'est fâché et il a exprimé sa colère sur son frère. Il le tua. Et regardez dans chapitre 4 et verset 23. Le mec dit à ses deux femmes, à Ada et Tzila, écoutez ma voix. Femme de Lémec, écoutez ma parole. J'ai tué un homme pour ma blessure. Quelqu'un m'a blessé et je l'ai tué. Et un jeune homme pour ma meurtrisseur. C'était un jeune homme qui m'a fait une blessure. Peut-être il a coupé le bras ou quelque chose. Ce jeune homme, un inconnu, c'était un cousin quand même. Il ne le connaissait pas. C'était un jeune homme sans nom. Et il s'est vengé. Il a tué parce qu'il a été blessé par ce jeune homme. Il ne dit pas que c'était un accident ou quoi que ce soit, mais c'était un acte de violence. Il a tué son cousin. Et puis ensuite, quand même, dans Genèse chapitre 6 et au verset 11, nous lisons, la terre était corrompue devant Dieu. La terre était pleine de violence. Pleine de violence. Donc Dieu n'a pas voulu que la vie soit ainsi. Mais ça revient aux mêmes questions de divorce. Ça cause la dureté de nos cœurs. Le cœur est méchant, profondément, au-delà de ce que nous pouvons même imaginer. Que Dieu qui peut... voir la profondeur de nos cœurs. Alors, il y a une phrase aussi qui est intéressante. On va arrêter avec cette pensée. C'est dans le verset 26. Et comme je vous ai déjà dit deux fois, la Genèse, c'est le début de toutes les choses. C'est les origines. Et au chapitre 4, verset 26, après la naissance de Seth, Seth a eu aussi un fils et il appela le nom de Enoch. C'est alors que l'on commença à invoquer le nom de l'Éternel. C'est intéressant cette phrase. Donc, je ne sais pas exactement si je suis dans la bonne voie quand j'explique ces choses comme ça, mais vous imaginez, il y a Adam et Ève, les premiers humains. Ils n'ont connu que le paradis auparavant. Dieu a dit, tu vas mourir si tu manges de cet arbre-là. Ils l'ont fait, mais ah, ils ne sont pas morts. Oh, mais peut-être je s'est trompé. Parce que je ne me sens pas mort. Je suis bien vivant. Et pourtant, nous savons que spirituellement, ils sont morts instantanément. Il n'y avait plus de relation avec Dieu depuis le moment qu'ils ont entré dans le péché. Mais la mort physique, il n'y a pas d'exemple. On ne sait pas qu'est-ce que c'est. C'est quoi ça? La mort physique, c'est quoi? On n'a peut-être même pas imaginé. Ils ont vécu 10 ans, 20 ans, 60 ans, 100 ans, 120 ans. Ben, la vie, ça va bien. Hein? C'est un petit peu de ronces et d'épines, mais bon, il y a des bons fruits aussi, des mangues, des bananes et toutes les choses. Et comme on lit dans le chapitre 5, ben les gens avaient habité 700, 800, 900 ans. Qu'est-ce qui est arrivé quand Caïn a tué Abel? La mort, le premier mort est arrivé. C'est l'absence de Abel. Il n'est plus là. Il a certainement caché son corps quelque part. Et puis, Ève a donné le nom de Seth, parce que Seth a remplacé celui qui était tué. On a connu maintenant que la fin de la vie c'est la mort. Cette personne disparaît, sa personnalité, le corps est là, mais la personne disparaît. Il est absent. On était à l'enterrement de mon collègue l'autre jour. Il n'est plus là. Son corps était là devant nous tous pour être enterré. Mais sa personne n'était plus là. On ne savait pas ça avant que Abel était tué. Et c'est alors que les gens ont commencé à invoquer le nom de l'Éternel. Au secours! Ça va être long! On va vivre, on va vivre, on va vivre, et puis on va mourir. On ne sait pas combien de temps ça va durer. La promesse était donnée à Ève que sa descendance allait écraser la tête du serpent. Mais quand? Quand est-ce que ça va arriver? C'était pas avant que Abel ait été tué. Et puis maintenant, il y a Lémèque qui a tué quelqu'un. Et puis en Genèse chapitre 6, la terre est remplie de violence au point que Dieu est dégoûté de l'humanité et va tout effacer, sauf pour Noé et ceux qui sont dans l'arche avec lui. Et puis les siècles et les millénaires ont passé jusqu'à nous. Et on reste toujours dans le même cheminement de vie et mort. Bien sûr, le Christ est mort pour ôter nos péchés. Mais là, déjà, en premier lieu, c'est la mort, c'est pour nos péchés, pour qu'on puisse avoir donc, la relation avec Dieu. Mais la résurrection de nos corps, c'est encore bien loin. C'est bien loin. Ou peut-être c'est demain. Demain ou aujourd'hui. Hein, ça dépend quand Jésus revient pour l'enlèvement, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas encore arrivé. Donc on voit, donc c'est ça qui m'a un peu frappé, c'est cette phrase. C'est alors qu'il commençait à invoquer. Hein, parce que dans le Romain, celui qui invoquera le nom du Seigneur ne sera pas confus. On doit faire appel à Dieu pour nous sauver de nos péchés. Et ils ont commencé à ce moment-là, quand ils ont compris ce qu'est la mort. Au secours, Seigneur.